gua.
Bonsoir, vous êtes sur FPP, sur 6.3, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission animée par les journalistes du PIAF et l'association ATTAC.
Et ce soir, notre invité sera Filippo Furi, anthropologue, membre de l'association Migre Europe, qui vient de nous parler de l'actualité bien triste des migrants et de l'évolution de l'Europe par rapport à ses frontières. Mais aujourd'hui, il y a aussi de l'actualité, bien sûr, comme tous les jours, et entre autres, Jean-Marc, qui n'est pas dans les studios, nous a envoyé quelques petits billets venant de son salon pour nous parler des événements qui l'ont marqué. Et aujourd'hui, ce qu'il a marqué, vu qu'il est professeur en collège, c'est le quotidien d'une journée non typique, c'est-à-dire celle d'un collège où la veille, on lui a dit « lundi, vous fermez les portes ».
Si vous avez la chance de travailler pour l'éducation nationale, vous avez forcément une approche de l'infini. Car vous avez l'habitude du mépris infini des recteurs et des ministres, vous avez l'habitude du bazar infini de cette belle administration. Cependant, tous les records sont en passe d'être battus aujourd'hui. Chronique d'un bordel organisé. Jeudi soir, vers 20h, le président annonce aux dévotés, après des semaines d'hésitation, la fermeture de tous les établissements scolaires pour lundi. 30 minutes plus tard, Blanquer remet le couvert. Il est vrai qu'on peut faire ça vite fait, aux dévotés, ça ne concerne jamais que 12 millions d'élèves et 700 000 profs. Vendredi matin, 7h30, assemblée des profs de mon collège. Zéro info. Vendredi matin, 7h45, débarquement de la chef en salle des professeurs, qui ne sait rien, mais promet de revenir à midi. Vendredi matin, bazar total, tous les gamins se pensent en vacances et parlent déjà de la jonction avec les prochaines vacances, justement. Vendredi matin, 9h50. Récréation, échange en salle des professeurs, et toujours aucune instruction. Vendredi, 12h30, retour de la chef en salle des professeurs, pour nous dire qu'elle n'a aucune consigne, mais qu'elle revient à 15h30 pour nous donner des infos. Vers 15h40, la récréation de l'après-midi prend fin, et personne n'a vu la chef. Coup de téléphone à la dite chef, qui dit qu'elle n'est pas venue. Bah oui, ça ne servait à rien, effectivement, il n'y a pas d'urgence, car elle n'a pas d'infos, ni de la direction académique, ni du rectorat. Vers 17h, départ des derniers profs, personne ne sait ce qui se passe lundi ni les jours suivants. Bref, une gestion de crise sans faille, une organisation aux petits oignons qui rappelle la rigueur, la perfection dans un autre dossier récent dans lequel ce super gouvernement, très pro, a mis 2 ans et demi pour sortir un texte à trous, non financé et globalement inapplicable. La compétence à l'état brut, quoi.
Alors Jean-Marc de son salon, c'est son nom, parle aussi souvent des élections, car il est très pris en ce moment, en tant que militant. Et il a assisté, comme tout le monde peut-être à Paris, aux débats municipaux.
Magnifique exercice démocratique. Deux fois en une semaine, les candidats à la mairie de Paris se sont retrouvés pour deux fabuleux débats. Des débats surtout fabuleusement convenus et fabuleusement ennuyeux. Ils furent exaspérants aussi par la façon dont les trois listes de tête, fabriquées semaine après semaine et sondage après sondage, ont été avantagées dans l'exercice. Pour sortir de ce marasme politico-médiatique, je vous propose donc une sorte de jeu, une sorte de question pour un champion, pour voir si vous avez bien écouté les débats et si vous saurez reconnaître les candidats à travers quelques indices. C'est parti, premier essai. Ce candidat est une candidate qui a dirigé la ville pendant 19 ans, mais parle comme si elle était candidate pour la première fois, qui parle d'écologie comme si elle n'avait jamais rien fait d'autre de toute sa vie et de toute sa carrière. Vous avez trouvé ? Ah, deuxième essai. Ce candidat est une candidate qui a été ministre de la Santé et a abandonné son ministère en plein Covid, car elle a dû remplacer un vidéaste amateur au pied levé, et qui ne connaît rien à la ville qu'elle dit vouloir diriger avec amour et passion. Vous avez trouvé ? Vous me décevez. Troisième essai. Ce candidat est une candidate qui reprend le programme de Jacques Chirac de 1983, à peu de choses près, une candidate qui a fait monter les cours du Botox ces dernières années, une élue de terrain qui a l'habitude, sans doute par pudeur, de ne pas se rendre dans les assemblées où elle a été élue. Trouvé ? Non. Là, vous n'êtes vraiment pas loin. Quatrième tentative. Ce candidat est un candidat. qui oublie que son parti a fait partie de la majorité sortante, qui oublie que son parti a donné des ministres à Hollande et à Macron, sans oublier quelques féministes bien connues à l'Assemblée nationale. Vous l'avez, celui-là ? Ah non, allez, dernière chance. Celui-là, c'est facile. Ce candidat est fort en maths. Il est à la fois dedans et dehors. Bref, il est lui, tout en étant fidèle à l'autre. L'autre, c'est Macron. Et se voit bien en troisième homme indispensable au soir du premier tour. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas avec qui. Allez, j'arrête. Bon dimanche.
Et non, Jean-Marc ne s'arrête jamais, voyons. Là, il va nous expliquer pourquoi les Verts ont eu une petite différence.
Avec le temps, va, tout s'en va. Oui, évidemment, il va pleuvoir, c'est pas de ma faute. Disait ce vieux Léo Ferré. C'est un peu ce que soulignent les Verts à la veille du premier tour, chiffre du CSA en main. Il montre qu'Agnès Buzyn, cette candidate tellement légitime et tellement passionnante, a, selon les types de médias et les tranches horaires, de 10 à 40 fois plus de temps de parole que les Verts. Le pire dans cette histoire, c'est que les Verts sont loin d'être les moins bien servis. Alors, une fois encore, la question du dysfonctionnement de la démocratie en France repointe le bout de son nez.
Et Jean-Marc conclut en cette journée, évidemment, c'est la fête du coronavirus.
Je vais vous parler de corona, bien sûr, pas la bière mexicaine, mais le coronavirus, c'est très à la mode en ce moment. Le coronavirus est maltraité dans la presse. Ce n'est pas que la Xème grippe venue d'Asie qui fera plus ou moins de morts que la précédente, on verra bien le compteur à la fin. Le Covid, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intéressant. Car le Covid n'est pas qu'une maladie, elle a aussi des avantages. Comme par exemple la limitation du trafic des marchandises dans le monde, la baisse de la pollution en Chine, puis dans le reste du monde, les avions qui sont de plus en plus cloués au sol, et donc la pollution qui baisse là aussi, le dévissage des bourses et quelques grands groupes qui commencent à avoir des sueurs froides, c'est bien fait pour eux. Aussi la baisse des rassemblements de beaufs alcooliques. Pardon, je voulais dire des matchs de foot, mais c'est pas politiquement correct. En fait, le coronavirus est une arme écologique et anticapitaliste plutôt efficace. D'ailleurs, des sources bien informées et secrètes assurent que le Covid a été fabriqué en Chine, ce n'est pas une épidémie mais une fabrication volontaire, fabriquée par une bande de nonagénaires nostalgiques de la révolution culturelle et de l'époque où l'Empire du Milieu était communiste.
On reste dans l'actualité après les chroniques de Jean-Marc pour une actualité qui concerne entre autres l'association ATTAC, dont certains sont militants dans ce studio. Car ce matin, vendredi 13 mars, quelques jours, deux jours avant les élections municipales, il y avait un rendez-vous qui avait été pris par plusieurs associations, dont ATTAC, que je viens de citer, les Amis de la Terre, mais aussi d'autres actions activistes, comme on dit aujourd'hui, avec à cause de Macron, association féministe. Beaucoup de scientifiques aussi étaient présents, dont trois signataires de l'appel à la désobéissance civile qui était publié en février. Ils ont eu des prises de parole, par exemple en rappelant que dans son discours sur le coronavirus, Emmanuel Macron a appelé plusieurs fois les recommandations des scientifiques. Nous sommes aujourd'hui en train d'écouter ce que disent les scientifiques. Mais en matière de climat et d'effondrement de la biodiversité, cela fait des années que les scientifiques s'expriment, et même les plus hauts niveaux des scientifiques. Et ça, c'était l'épidémiologiste Kevin Jean qui parlait. Le gouvernement a sciemment ignoré ces alertes. Le Haut Conseil du climat l'a épinglé. En janvier, le gouvernement a quand même revu à la hausse ses émissions de gaz à effet de serre pour les prochaines années. Il continue à promouvoir des technologies énergie fortes et superflues comme la 5G. Il est, Macron, l'opposé des beaux discours. Un sociologue et un astrophysicien, Milan Boucher-Vala et Jérôme Guillet, ont reçu eux aussi le temps de parole pour pouvoir s'exprimer dans ce sens. En parallèle, les associations militantes leur ont remis à tous ces gens des portraits de Macron qui ont été, comme on dit, réquisitionnés dans différentes mairies. Ils ont été fournis, il faut le dire, la tête en bas pour un petit cadeau. C'est ainsi que, par exemple, Monique Pinson-Charlot, bien connue sociologue, ou Priscilla Ludowski, Gilet jaune, ou Aurélie Trouvé d'Attac ont été récipiendaires de ces portraits, tout en essayant évidemment, tout au long de cette journée, d'exprimer différentes facettes du bilan d'Emmanuel Macron, vu que c'était le bilan de Macron. Eh bien, ça n'a pas plu. Alors c'était peut-être un petit peu trop près de l'Élysée, peut-être. Il y avait aussi ces fameux portraits à l'envers. On ne sait pas à l'heure où on vous parle, mais il y a eu 11 arrestations. Alors que c'était un moment totalement non violent, avec Action non violente COP21 qui était présent. Et parmi les personnes arrêtées, on trouve Fanny Delahaye, décrocheuse lyonnaise, Aurélie Trouvé, porte-parole d'attaque, ou Khaled Kadji, président des Amis de la Terre. Ils sont aujourd'hui même en garde à vue, après avoir déjà passé plusieurs heures au commissariat, entre autres le commissariat du 5e arrondissement, où il y avait un petit regroupement cet après-midi. Je suis allé poser la question à Vincent de l'association Les Amis de la Terre.
Action, donc aujourd'hui a eu lieu une action ce matin autour de l'Elysée pour tirer le bilan d'Emmanuel Macron en présence d'une quinzaine de personnalités. Représentantes et représentants de mouvements et d'organisations telles qu'ATA, Greenpeace, des scientifiques, des climatologues, des porte-parole de secteurs en lutte, la santé, la retraite. Tout le monde était là pour tirer le vrai bilan d'Emmanuel Macron. Donc en s'approchant du palais de l'Elysée, avec les portraits d'Emmanuel Macron qui ont été réquisitionnés tout au long de cette année. Donc on était plusieurs dizaines de militants et dont certains sont fait arrêter qui sont retenus derrière nous au commissariat du 5e. Donc on est là en soutien, en attente qu'ils soient libérés et comme on peut le voir, l'exercice de la libre expression est clairement impossible dans ce pays. Peu importe le motif, il y a toujours eu un nouvel argument nous empêchant d'exprimer nos opinions. Donc là, c'était périmètre interdit, attroupement, coronavirus, domaine public, enfin bref, la liste s'allonge de mois en mois. Mais on a quand même pu tirer ce bilan en matière sociale, écologique, qui est vraiment piteux pour M. Macron, donc à 2 jours des municipales. Et donc c'était vraiment pour dénoncer ce gouvernement et qu'il faut absolument qu'il se prenne une veste au municipal. Quoi, voilà.
Je suis aussi allé voir Gilles Sabatier, qui est déjà intervenu dans ce studio pour l'émission et qui est membre de l'association ATTAC, et je lui demandais pourquoi ces arrestations sont inadmissibles.
Oui, effectivement, ces arrestations sont inadmissibles. C'était une action dite non violente. Des personnes ont apporté des portraits de Macron juste à côté de l'Elysée. Rien de méchant, en fait. Et là, plusieurs personnes ont été arrêtées. Là, on est devant le commissariat du 5e arrondissement, mais d'autres personnes sont dans le 4e arrondissement. Ici, il y a plusieurs personnes arrêtées, dont Aurélie Trouvé, porte-parole d'attaque. C'est vraiment absurde. Parmi les personnes arrêtées aussi, il y a des scientifiques qui ont signé la tribune des 1000 scientifiques pour le climat. Hier, Macron, lors de son discours sur le coronavirus, disait qu'il fallait écouter les scientifiques, et le lendemain, il les emprisonne. Donc, c'est le en même temps de Macron, et c'est le paradoxe. Voilà, tout c'est pour dire que ces arrestations sont absurdes. Les personnes qui sont là, certaines ont été notifiées qu'elles étaient en garde à vue, puisqu'elles sont là depuis plus de 4 heures. Je me mets à la place d'elles. Je ne sais pas quelle heure il est, mais nous sommes là, nous sommes un certain nombre. Et nous sommes là jusqu'à ce que... Ils soient tous et toutes libérés. Voilà, donc c'est vraiment absurde comme situation.
Voilà, alors on ne sait toujours pas pourquoi ils ont été mis en garde à vue, mais Alex a une idée.
Moi, non. Ma proposition, c'est un nouveau chef d'inculpation pour aider les juges qui doivent empêcher les empêcheurs de marcher en rond de continuer à marcher en rond. Donc, terroriste en réunion diffusant le coronavirus en portant des gilets jaunes à côté de l'Elysée. Je pense que ça vaut cher.
Je pense que ça mériterait de repenser à ce que pouvaient faire les gouvernements d'après-guerre ou avec une bonne répression. D'ailleurs, à cette époque-là, l'après-guerre, il y avait un chanteur, écrivain, poète, penseur, joueur de trompette qui s'appelait Boris Vian. C'est ses 100 ans. Alors, on va passer quelques chansons de Boris Vian et une qui serait parfaitement d'actualité encore aujourd'hui, c'est d'expliquer que nos chers policiers aiment avoir des chaussettes à clous.
les mutines toujours à courte. Elles donnent à qui les porte une grâce virile et forte et toujours de très bonne aloi. Des chaussettes à clous.
Et donc, on se retrouve sur l'émission Mode d'emploi, toujours avec des militants d'attaque et les journalistes du PIAF.
Et notre invité, Filippo Furi, qui est anthropologue et membre de l'association Migre-Europe. Alors, on avait envie de t'entendre nous raconter ce qui se passe aux frontières de l'Europe, et plus précisément au drame encore renouvelé, mais ce coup-ci, pour peut-être des raisons un peu différentes, en Grèce, typiquement sur l'île de Lesbos, où il a maintenant été avoué que des militaires européens ont tiré à balles réelles sur des migrants. C'est quand même un drame. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce que, pire encore, l'Europe semble justifier cette action?
Mais bonsoir à tout le monde. Merci de me proposer de parler de cet argument alors que les chroniques sont envahies par d'autres choses, quoi. Et ça risque de passer un peu à côté. Qui a pu suivre un peu l'actualité, s'est rendu compte qu'il y a eu des violences et il y a des accusations de deux côtés, c'est-à-dire que les Turcs, la Turquie accuse les forces de police et les militaires grecs de tirer sur les migrants, alors, et la Grèce à son tour accuse les Turcs de tirer et d'envoyer des lacrymos, etc. Donc il y a une situation très tendue qu'on peut contextualiser. Je pense qu'il y a eu un mort, et donc il y a des copains qui travaillent dans un projet qui s'appelle Forensic Oceanographic à Londres, qui ont essayé de reconstituer ce qui s'est passé, parce qu'il y a un mort qui a été recensé à la frontière de Evros, c'est-à-dire à la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce. Et il y a aussi des attaques, et là on ne sait pas si c'est à balles réelles ou à balles en plastique, sur les personnes qui essaient de traverser par bateau de la Turquie vers les îles grecques. Donc le cadre, c'est assez tragique, et ça se rajoute à une situation qui est tragique depuis un certain moment. C'est-à-dire qu'on peut compter 42 000 personnes qui vivent dans les 5 îles, disons, en face de la Turquie, dans des conditions indignes depuis plusieurs années désormais. Donc la situation s'est clairement empirée, mais elle s'est empirée, disons, à partir du 29 février, quand le gouvernement turc donc Erdogan a d'abord annoncé, mais très rapidement mis en œuvre, ouvrir les frontières pour laisser passer une masse de personnes. Et apparemment, il les a lui-même, il y a des bus qui ont été organisés pour les amener à la frontière pour faciliter la tâche, pour qu'ils viennent vers l'Union européenne. Et du coup, on peut compter environ 8500 personnes qui sont arrivées en Grèce en 2020. Et les gouvernements grecs disent que ces jours-ci, donc entre le 29 février et le 4 mars, il y a eu 35 000 tentatives d'entrée qui ont été évitées par les forces grecques. Donc vous voyez un peu le nombre de personnes.
Alors comment on en est arrivé là? Sans doute, c'est la guerre en Turquie, en Syrie, c'est l'arrivée des réfugiés en Turquie. Mais si on remonte, c'est pas de l'histoire, c'est de l'actualité récente. Il y a 4 ans, en 2016, on était à peu près dans la même situation. Et si on veut remonter à cette époque-là pour bien comprendre aujourd'hui, il y a eu un accord entre la Turquie et l'Union européenne.
Tout à fait. Et le 18 mars de 2016, un accord a été signé entre l'Union européenne et la Turquie pour que la Turquie, avec un échange d'engagement, pour demander à la Turquie d'arrêter sur son territoire la plupart des personnes, disons des Syriens, mais aussi des personnes qui transitaient par les territoires turcs vers l'Union européenne. Notamment, il y a des Afghans, etc. Je pense que c'est utile peut-être de revenir un peu sur les détails de cet accord, un peu rapidement, pour pouvoir voir un peu ce qui n'a pas marché des deux côtés et ce qui justifie ce qu'on pourrait appeler un deuxième temps de cette question. Alors, l'accord prévoyait que la date, il y avait une date qui était la date du 20 mars, qui était rentrée avant le 20 mars, avait le droit d'être, disons, accueillie en Europe, et les autres personnes auraient été renvoyées en Turquie. En échange, la Turquie avait, avec l'aide de l'UNHCR, etc., avait prévu de produire une liste avec notamment les personnes vulnérables, donc les femmes et les enfants prioritaires, pour les inscrire dans un processus de relocalisation vers l'Union européenne. Donc l'idée, c'était, on renvoie vers la Turquie les dernières à arriver, mais les vulnérables, on va les renvoyer vers l'Union européenne. Ça, c'était les cadres, donc à travers ce qu'on appelle les canaux humanitaires. Chose qui s'associait à l'époque à la mise en place d'un processus de relocalisation qui était lié à l'approche hotspot, mais qui partait des îles grecques et de l'Italie. Mais ça, c'est une deuxième question. À côté de cette, disons, négociation directement concernant la migration, il y avait d'autres dossiers, notamment celui de la levée des visas pour les citoyens turcs pour rejoindre l'Union européenne, et par la suite, la promesse d'une accélération de la procédure pour faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Le problème du côté turc, c'était que l'Union européenne avait posé 72 conditions une demande d'améliorer un certain nombre de critères pour que ces dossiers puissent procéder. Et c'était des dossiers concernant notamment le respect des droits humains, les libertés d'expression, etc., etc. Bon, ça, c'était les conditions un peu un gros de cet accord.
Et aussi une autre notion qu'il ne faut pas oublier, c'est l'argent quand même. Il y a aussi deux fois, c'est pour ça qu'il s'est passé 4 ans, deux tranches d'argent données de l'Europe vers la Turquie.
Tout à fait. Alors, sur la question de l'argent, qui est un peu le centre du dossier, c'est un marché, prévoyait le paiement en deux tranches de 3 milliards d'euros chacune à la Turquie pour la gestion de ce dossier. Dossier migration et autre chose, parce qu'on a après, il y a eu des enquêtes, mais on peut revenir dessus, qui ont démontré au moins pour ce qui est de la première tranche, la totalité de l'argent n'a pas été dépensée pour ça, mais a été utilisée pour des développements de technologies de sécurité, etc., etc. Donc un petit usage alternatif, disons, des fonds. Donc ça, c'est un dossier assez important. Il faut quand même souligner que cet argent n'était pas octroyé complètement au gouvernement turc, mais en partie. C'est-à-dire qu'une partie, à l'auteur de... je pense que c'est à un moment donné, c'était 2 milliards d'euros, était donnée aux associations et aux organisations qui travaillaient sur les terrains, et qui devaient être nécessairement des organisations européennes, mais qui auraient dû faire le travail, en combinaison avec le gouvernement turc, qui a incassé l'autre partie, disons, de la somme. Alors, la première tranche a été payée, je pense, si je me rappelle bien, vers 2018, elle a complété. La deuxième, il y a plusieurs voies qui se croisent, et on n'est pas sûr que tout l'argent a été payé, d'où probablement les contre-attaques.
Alors, les contre-attaques, il en a fait aussi, parce que sur le plan, donc on a parlé de ce niveau contractuel, d'accord sur les accueils, l'argent, et le troisième point, c'est que finalement Erdogan, il a eu un peu la main libre pour la Syrie.
Erdogan a eu la main libre sur la Syrie. Il faut quand même qu'on se rappelle aussi qu'il y a eu un essai de coup d'État en Turquie il y a un petit moment, la date, c'est l'été, de 2000. Peu importe, mais genre le renforcement, si vous voulez, des politiques autoritaires du gouvernement turc ne sont pas allées dans le sens souhaité par l'Union européenne, disons ça. Et à ça se rajoute la tension militaire, donc l'évolution du conflit en Syrie, et l'implication de la Turquie qui a davantage pris du terrain. Donc il y a eu un engagement direct de l'armée turque de l'armée turque sur les terrains syriens. Chose qui a provoqué une réaction de la Russie qui était évidemment qui a pris le parti du gouvernement syrien, donc de Assad. Donc c'est clairement, il y a une dimension conflictuelle aux frontières de l'Europe qui a un impact aussi sur cette question. Sur ce marché, quoi, sur ce qu'on pourrait. À Migrop, on utilise la notion d'externalisation, donc tout ce qui est les processus d'externalisation des frontières européennes et le fait de déléguer à des acteurs périphériques, disons, le contrôle des frontières.
Et donc, on l'a confié entre autres à Erdogan, qui finalement, si on veut conclure, au bout de 4 ans, l'accord commence à avoir pris l'eau et. Il le remet en débat. Il était d'ailleurs, il y a 2 jours, à Bruxelles pour tenter de renégocier un nouvel accord.
Tout à fait. Mais il y a un travail diplomatique qui est en train de se faire. Il y a eu cette présence de Erdogan à Bruxelles il y a 2 jours. La semaine prochaine, le 17, si les calendriers sont maintenus en raison des autres questions d'actualité, normalement, Macron, Angela Merkel et probablement Boris Johnson sont attendus à Ankara pour négocier le dossier en vue de, disons, les deux parties souhaitent d'arriver à un accord le 26, qui est le jour d'un Conseil européen prévu. Et voilà.
Et on peut peut-être conclure sur cette première partie. Finalement, est-ce que la faute est que du côté turc dans cet échec de l'accord ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, l'Union européenne a la présomption, disons, de dire qu'elle respecte les droits de l'homme en déléguant aux autres et en donnant aux autres la possibilité de ne pas les respecter pour elle, quoi. Donc ça, c'est, disons, d'un point de vue plutôt éthique. Mais même si on regarde les conditions du marché qui avait été signé en 2016, ben les deux côtés n'ont pas forcément respecté les accords. Et du coup, la négociation doit se, en termes très géopolitiques, disons ça, la négociation, le projet n'a pas été respecté des deux côtés.
Bon, on va faire une petite pause en écoutant toujours Boris Vian, et ce coup-ci, c'est la complainte du progrès.
Le cœur content, le pied léger, je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé, canon en sort.
Et on se retrouve sur l'émission Mode d'emploi sur FPP 106.3, toujours avec des militants d'attaque et les journalistes du PIAF.
Et notre invité, Filippo Furi, anthropologue de l'association Migre Europe, qui nous a évoqué les 4 années de cet accord entre la Turquie et l'Union européenne qui finissent aujourd'hui en drame humain aux frontières de l'Europe, en Grèce très précisément, avec des migrants repoussés, des migrants qui ont tiré avec des balles en plastique, où il y a eu un mort. Et où on ne parle pas trop, évidemment, de ça, vu qu'avec le coronavirus, c'est le seul sujet européen. Mais nous, on veut en parler, et on veut peut-être même aussi parler de ce qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, on finisse par trouver ça normal de repousser les migrants.
Et juste, tu as évoqué les coronavirus. Je me prends la liberté d'échanger, d'insérer un fait divers, c'est-à-dire fait divers. Il y a plusieurs associations, MSF, etc., qui demandent l'évacuation immédiate des personnes qui sont dans les centres d'accueil, disons ça, dans les îles grecques, parce que un premier cas de coronavirus a été identifié. Donc évidemment, à la situation déjà inhumaine à laquelle ils étaient soumis, une diffusion de l'épidémie n'aidera pas. Donc il y a des pressions, disons qu'il y a aussi une dimension humanitaire qui davantage s'empire, donc je tenais quand même à remarquer ça. Mais non, pour revenir à ta question, évidemment, la situation est liée à une évolution politique du côté turc, évidemment. Donc on a évoqué un peu la tension avec la Russie en Syrie, mais aussi au niveau européen, c'est clair. C'est clair, c'est-à-dire l'Union européenne a pris dans, au niveau national et même aussi au niveau de la Commission, il y a une déplacement de, progressivement à droite. Ça suffit de voir comment les militants d'extrême droite sont intervenus sur le terrain à Lesbos et à Lesbos notamment, en attaquant à la fois les solidaires et les migrants sans que la police intervienne. Quoi. Je veux dire, il y a une présence sur le terrain d'une violence contre les personnes migrantes et contre les solidaires qui est de plus en plus évidente. Et il y a, bon, nous en Italie, on a eu Salvini pendant un petit moment qui a donné un sacré coup à tout discours d'accueil et des parcours d'intégration. Donc c'est clair que la situation a empiré. Donc l'Union européenne, disons que la renégociation ne se fait pas sous les mêmes bases sur lesquelles elle avait été faite en 2016.
Et avec un personnage qui est toujours là, pour encore quelques mois, Angela Merkel, qui à l'époque avait des symboles de bras ouverts par rapport à nos frères syriens qui viennent se réfugier en Europe, et qui aujourd'hui a un discours inverse, et certainement avec pas le même type de coalition, vu que c'est une immense coalition en Allemagne, mais c'est quand même symptomatique d'imaginer qu'une personne qui a 4 ans avait un discours d'ouverture, aujourd'hui a un discours de quasi fermeture.
Le pragmatisme politique allemand est plutôt célèbre. Ils ont accueilli les premiers Syriens. C'est pas un hasard. Ils ont accueilli les premiers Syriens qui, pour des raisons économiques, sociopolitiques, etc., étaient des personnes qui avaient aussi une condition socioculturelle particulière. Donc, c'était plus facile d'accueillir ces personnes. Ça c'est une donnée. Et bon, bien clairement, il y a une stratégie politique de gestion interne aussi. Tu me fais penser à la narration aussi par rapport à ces éléments. Nous, dans l'Atlas des migrants en Europe, on a publié une carte qui, je trouve, plutôt évocatrice, qui explique assez bien cette double discours, cette double perspective. Nous, on a souvent montré les nombres de personnes syriens accueillies en Europe pendant ces années. Et vous voyez souvent dans les médias, non, dans la presse, ces cartes européennes avec des gros ronds qui disaient l'Allemagne a accueilli 1 million de personnes, etc., etc. Et nous, on a fait une expérience, on a élargi la carte et on a intégré des autres pays du Moyen-Orient. Et on voit évidemment que c'est complètement disproportionné. Je veux dire, la Turquie, dont on parle mal, mais la Turquie a sur son territoire 3,3 millions de Syriens.
Et donc, si on veut donner une comparaison sur l'accueil en Europe, est-ce qu'il y a un pays qui a un chiffre qui peut ressembler à 2 ou 3 millions d'accueil ?
Non.
Aucun.
Bon, aucun.
C'est sans comparaison.
L'Union européenne a souvent, et on a dit, je pourrais citer des personnages, des personnalités qui ont à plusieurs reprises dit on ne peut pas accueillir plus de personnes parce que ça va déstabiliser l'espace Schengen, etc., etc. Mais c'est de la narration, justement, pour essayer de montrer qu'on respecte les droits humains et qu'on a un discours de façade, mais en réalité, on parle de chiffres plutôt irrisoires.
Donc une narration au sens de dire que finalement c'est un effet d'annonce, de dire qu'on accueille des migrants alors qu'en fait on les laisse à nos frontières avec des accords.
Oui, bon, il y a le projet d'accueil. On peut revenir à la question de la relocalisation et de l'hotspot approach, c'est-à-dire que l'idée c'était l'Italie et la Grèce accueillent les personnes et après il y a une relocalisation sur base volontaire, c'est-à-dire les autres pays d'Europe étaient censés recevoir un pourcentage de ces personnes, chose qui n'a pas marché. Donc il y a un problème au niveau, disons, l'Union européenne et ses partenaires extérieurs, donc externalisation du contrôle des frontières, etc., mais aussi un problème interne de redistribution et d'accueil homogène, parce que l'Italie et la Grèce, évidemment, ont dû gérer des situations qui étaient dramatiques. Rien n'excuse les politiques grecques et italiennes, mais c'est clair que le taf était un peu compliqué.
Et alors, la phrase que tu as employée tout à l'heure, qui est très marquante, c'est que l'Europe se vante de respecter les droits de l'homme, mais elle délègue finalement à ces, aux dictatures qui sont sa frontière. On a parlé de la Turquie, on peut quand même la citer en dictature aujourd'hui, mais il y en a d'autres, des pouvoirs autocratiques forts, comme par exemple le Maroc, où on a connu aussi évidemment la Libye de Kadhafi, avec qui on avait des accords similaires qui permettaient de dire gardez tout le monde là-bas, ne bloquez nos frontières.
À l'époque, c'était un accord, donc c'était pas un accord Union européenne Libye, mais c'était un accord Italie-Libye, mais la logique c'était la même. Donc l'Italie négociait un peu au nom de l'Europe aussi pour s'érger à un mur de l'Europe, et elle a négocié des aides et du coup des fonds versés à la Libye des Kadhafi pour lui demandant en échange cet contrôle et cette contention. Genre, l'idée de tous les blocs chez toi et on te donne l'argent pour le faire.
Et donc, d'un point de vue droit de l'homme, finalement, on est content qu'il y ait ces dictatures. Est-ce que finalement, on peut imaginer, je suis vraiment très pervers d'imaginer ça, que les politiques européennes ont gardé, ont même finalement trouvé ces dictatures, on peut aller discuter, on va chez eux, on produit, à cause de ça.
On produit aussi, si tu veux. On produit ces dictatures. Après, il y a des cadres différents. Erdogan n'est pas Kadhafi. Disons que l'Union européenne aussi est en train de trouver des stratégies alternatives, c'est-à-dire que de plus en plus, ce qu'on a remarqué, c'est que à la fois quand c'est il y a des situations ponctuelles comme la Libye, à savoir qu'on a l'Italie a renégocié des accords avec la Libye tout récemment avec le gouvernement de centre gauche, disons ça. Donc c'est quelque chose qui a repris les accords de Berlusconi, donc on continue. La Turquie, mais il y a toute une politique d'externalisation qui est un peu plus fine, disons ça, et un peu plus visible, un peu plus opaque, plus compliquée à retracer, à reconstituer, c'est-à-dire tout ce qui est lié à ce qu'on pourrait dire très, très grossièrement à l'aide au développement. C'est-à-dire que l'aide au développement dans les pays tiers est souvent conditionnée à certaines pratiques de contrôle et de gestion des populations et de la migration. Donc pays de départ et pays de transit.
Donc on redit ta phrase, hein, l'Europe dit respecter les droits de l'homme, mais elle délègue le sale boulot.
Et surtout, ce qui est angoissant et ce qui est inquiétant, c'est qu'elle peut dire qu'elle respecte les droits de l'homme grâce au fait qu'elle délègue les non-respects des droits de l'homme aux autres. Donc c'est ça qui est très inquiétant. C'est
très inquiétant. Alors pour bien comprendre ça, tu as cité un ouvrage, l'Atlas des migrations en Europe.
Tout à fait.
Tu peux nous dire l'éditeur, le trouver.
C'est un atlas qui est sorti en 2017 en version française, en 2019 en version anglaise. Donc Armin Collin pour la France, pour la version française, et Routledge pour la version anglaise. Et c'est un atlas qui, disons, traduit un peu le travail de Migreurope, du réseau. Donc il y a environ 90 auteurs qui ont participé, des chercheurs, des militants, des photographes, des cartographes, notamment des cartographes, parce qu'on travaille beaucoup avec la cartographie dans le réseau. Et qui est une œuvre, disons, qui essaye de monter, de donner une perspective critique à la question de l'immigration, de lire de façon critique tout ce qui sont les politiques européennes en matière d'immigration.
Eh bien, on te remercie pour cette intervention qui nous a éclairé sur les bas-fonds de l'Europe.
Merci à vous. Merci à vous.
Et merci. On enchaîne avec une chronique d'actualité parce qu'on va nous parler de banques et de rapports entre les banques et nos députés.
Non, pas vraiment. Non.
D'accord, bah vas-y.
Je vais parler. Non, ce dont je vais parler, ça va être plus important et encore plus d'actualité. Et il y a des années de ça, il y avait un certain bouquin qui s'appelait La Révolution qui vient, qui avait été écrit par un comité invisible. Et là, il y a une sorte de vaste comité invisible d'économistes qui s'intéresse à la crise qui vient. Oui, je suis bien en face. Et donc la question que je pose, c'est la crise qui vient, est-elle advenue? Et parce que effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre les annonces sur le coronavirus, etc., on a eu en fond sonore, là, quelque part, toutes les grandes places boursières qui ont dévissé à peu près en même temps, de manière très très spectaculaire. C'est tombé, c'était avant-hier, c'est tombé de 12,5% en une journée à Paris, record de l'histoire de Paris, je crois. 7% à Wall Street, 10% à Francfort, enfin bon, etc. Donc, et il semblerait que le CAC 40 soit quasiment à son plus bas depuis la crise de 2008. Donc, a priori, on se dit, il y a un krach boursier. Alors, question, est-ce que c'est grave? Et, en fait, en principe, non. Alors, ça va un peu vous surprendre, mais je vais développer. Mais ça pourrait le devenir, et ça à mon avis, probablement le devenir grave. Alors, non, parce que ça fait un moment, un bon moment qu'on est sur une espèce de bulle spéculative, en particulier sur le marché des actions. Et donc, c'est un niveau anormalement élevé. Alors qu'il y a un taux de croissance qui est pas formidable en Europe, au Japon, qui est un peu meilleur aux États-Unis, bon, et bien meilleur en Chine. Mais les cours des actions depuis 2008, enfin depuis 2010, ont grimpé de manière complètement dingue. Dow Jones a été multiplié par 3, si je me souviens. J'avais parlé de ça déjà dans une précédente chronique entre 2010 et 2019 a été multiplié par 3 alors que le PIB il avait augmenté de 40% des États-Unis. Donc, et c'est non seulement énorme par rapport au taux de croissance, mais c'est énorme par rapport au taux de profit des entreprises. C'est-à-dire que effectivement, les grandes entreprises font des taux de profit qui sont très intéressants, mais qui justifient pas que le prix de leurs actions soit multiplié par 3, par 4, par 5. Donc c'est un marché spéculatif. C'est un peu la définition. C'est-à-dire qu'on n'achète pas pour les profits que ça va rapporter, mais on achète pour revendre, parce que c'est là qu'on va se faire le plus gros profit. Et une bulle, quand ça se crée comme ça, ça veut dire que plus le cours monte, plus le cours monte. Et ça peut pas durer éternellement. Un jour, ça finit par craquer, et là, ça a craqué. Et alors, deux possibilités à ce moment-là. Ou c'est un vrai crack. Et a priori, ça va avoir des conséquences sur l'économie réelle plus ou moins importantes. Il y avait un énorme crack en 87 qui n'avait pas eu des conséquences dramatiques sur l'économie, sur le reste de l'économie. Ou alors, c'est juste une correction. Bah, finalement, c'est le marché qui retrouve un équilibre. Voilà, ça, c'est la version libérale optimiste. Et ce qui est intéressant dans le cas, là, c'est que c'est quand même lié à la conjoncture, c'est lié à l'histoire du coronavirus. Donc, c'est un truc assez classique. C'est les investisseurs qui investissent en achetant des actions, anticipent la baisse des profits des entreprises qui va venir à cause de la crise du coronavirus, donc les dividendes vont être moins importants, donc les cours achetés de ces actions vont être moins intéressants, donc ça va baisser, donc du coup il faut vendre maintenant avant que ça baisse. Et comme ils sont énormément à penser exactement la même chose en même temps, ça baisse. Voilà, prophétie autorisatrice, donc on a le truc qui faisait monter, qui juste à l'inverse fait baisser. En soi c'est pas dramatique. Les effets du coronavirus sur l'économie réelle, à la limite, sont plus importants et plus inquiétants. Chaque pays touché est en train de fermer ses frontières. On restreint les déplacements à l'intérieur du pays, ce qui réduit l'activité de certains secteurs. Et en plus, ce confinement de plus en plus généralisé dans un monde, par ailleurs, de plus en plus mondialisé, ça casse des chaînes de production un petit peu complexes. Et du coup, comment les entreprises font pour fonctionner quand leurs sous-traitants localisés en Chine peuvent plus exporter les pièces détachées? Voilà. Donc, et c'est ça qui est en train de ralentir l'activité économique et qui va peut-être conduire à une récession. Mais, et c'est là que je vais reprendre les idées de Lordon, c'est que cette crise boursière, en fait, elle peut entraîner une crise financière qui va être assez dramatique, qui pourrait être assez dramatique, qui ressemble beaucoup à celle de 2008. C'est-à-dire que ça peut se transmettre aux banques et à tout le secteur, en fait, ce que Lordon appelle assez justement le marché de la dette. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet de levier. L'effet de levier, c'est le fait que quand on a des taux très bas, ce qui est le cas actuellement, on a des taux à 0, à 1%, etc., et qu'on a des taux de profit qui sont relativement intéressants, pour un investisseur, le plus intéressant, c'est d'emprunter des tonnes d'argent à une banque en n'ayant pas beaucoup de fonds propres pour acheter des tonnes d'actions, sachant que, du coup, le rendement par rapport au fonds propres engagés va devenir très très intéressant. Si si l'effet de levier est intéressant, on peut multiplier par 3 le rendement de l'action avec ce système-là. Et ça explique comment se constitue la bulle. Plus on a des taux bas, plus l'effet de levier est important et plus justement on a intérêt à investir dans des actions. Et donc, du coup, ça fait monter le marché des actions. Mais ça explique aussi que quand il y a un renversement de tendance brutal comme on a le cas là, ça devient très très dangereux. Alors ça devient forcément très dangereux pour les fonds d'investissement, puisque du coup, ils ont engagé des sommes qui leur appartenaient pas, qui vont devoir rembourser à la fois les intérêts et le capital, alors que pour acheter des actions dont la valeur vient de s'effondrer, et qui vont pas pouvoir revendre en faisant une plus-value, d'une part, et puis d'autre part, c'est extrêmement dangereux pour les banques qui ont prêté des sommes énormes à ces investisseurs, et ce qui, du coup, vont se retrouver avec des mauvaises dettes. Et ces mauvaises dettes, elles peuvent entraîner des problèmes au niveau du bilan des banques. Et si les banques ont des mauvais bilans, qu'est-ce qui se passe? Elles vont arrêter de prêter aux emprunteurs qui ont réellement besoin d'emprunter, les entreprises et les ménages, et elles vont même éventuellement, ce qui s'est passé en 2008, arrêter de se prêter entre elles. Et là, on se retrouve avec un danger de crise systémique, comme on a eu exactement en 2008, et a priori la perspective d'une récession très grave. Alimentée, et c'est là que ça devient marrant, alimentée, mais ça on s'y attendait depuis quelques années, alimentée par les politiques de taux bas qui ont été menées par les banques centrales pour pouvoir guérir de la crise de 2008. Voilà.
Donc c'est toujours la même crise.
L'économie est pleine de rebondissements surprenants.
On enchaîne sur une autre chronique un petit peu moins d'actualité, mais qui a quand même son sens en cette période où le gouvernement compte sur ses fonctionnaires pour faire marcher l'État. N'est-ce pas, Gaël ?
Et hier, c'était la journée contre la précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche. Car si la précarité ne sévit pas que dans ce secteur, il faut reconnaître qu'il est particulièrement touché, que ce soit du côté des étudiants, chacun se souvient de l'immolation d'un étudiant devant le CROUS, ou du côté du personnel. 35% du personnel de l'enseignement sup et de la recherche est en CDD, sans compter de nombreux enseignants qui vivent de vacations, payés à l'heure, sans contrat de travail et sans droits sociaux. Pourtant, dans le secteur public, la loi prévoit ou prévoyait jusqu'en 2019 que l'emploi de fonctionnaires soit la règle et que les contractuels soient l'exception, par exemple pour couvrir des besoins temporaires. Mais en pratique, c'est un agent public sur cinq qui n'est pas sous statut de fonctionnaire, mais en CDD ou plus rarement en CDI. Alors comme je l'ai dit, l'enseignement sup et la recherche sont en pointe dans la précarisation de l'emploi, avec non pas un cinquième de contractuels, mais un tiers. Et ça vient à la fois de la manière de financer la recherche et de nouveaux outils législatifs. Le fait de geler les recrutements de fonctionnaires dans la recherche et de financer la recherche principalement via des appels à projets a favorisé le développement des CDD. Quand un chercheur décroche un budget, c'est pour une durée limitée, donc il utilise l'argent pour recruter des CDD qui vont pallier l'absence de collègues fonctionnaires. En plus de ça, depuis 2007, la loi LRU, Liberté et Responsabilité des Universités, donne aux universités des possibilités de recrutement de contractuels que n'avaient pas les autres services publics. Cette loi permet de recruter des enseignants, des chercheurs, des cadres techniques et administratifs, en CDI ou en CDD, sur des fonctions pérennes, c'est-à-dire des fonctions qui sont normalement occupées par des fonctionnaires. Et ça permet de s'affranchir de toutes les règles en matière de salaire et de nombre d'heures d'enseignement. Alors au départ, ça a été présenté comme un outil pour, je cite, « attirer les talents », c'est-à-dire pour recruter des grands professeurs étrangers avec des salaires supérieurs à ceux de la fonction publique, ou bien des cadres hyper compétents qui préfèrent travailler dans le privé si on ne leur donne pas des gros salaires dans le public. En fait, cette utilisation a été marginale et on s'est souvent rendu compte que les talents, entre guillemets, qui courent après les gros salaires n'étaient pas forcément plus talentueux que les fonctionnaires. Et puis on a aussi utilisé ces contrats pour recruter des profs au rabais, payer moins cher pour faire plus d'heures d'enseignement. Et depuis la loi du août 2019 sur la transformation de la fonction publique, cette possibilité de recruter des contractuels sans limite est étendue à toute la fonction publique. Mais globalement, ce dispositif a été peu utilisé dans les universités et l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche s'en émeuvent dans leur récent rapport conjoint sur le pilotage et la maîtrise de la masse salariale des universités en avril 2019. En gros, les inspecteurs disent que c'est de la très mauvaise gestion. Puisque ça coûte moins cher et que c'est plus souple de recruter des contractuels, pourquoi diable les universités ont-elles continué à recruter des fonctionnaires ? Alors, heureusement, en 2020, deux nouveaux outils arrivent pour pouvoir s'y mettre. Le gouvernement a créé un nouveau générateur de précarité dans le secteur public, ça s'appelle le contrat de projet. Ça a été créé par un décret le 27 février. C'est un contrat dont la durée est liée à celle du projet sur lequel on travaille. Quand le projet est terminé, on dégage. C'est une variante du contrat de chantier qui existe déjà dans le BTP. Parallèlement, la ministre de l'Enseignement supérieur prépare une loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, qui mobilise contre elle la communauté universitaire depuis 3 mois. Et parmi les joyeusetés prévues, on trouve le contrat de mission scientifique, qui est une déclinaison du contrat de projet. En plus de ça, la LPPR crée un dispositif spécifique à l'enseignement supérieur, c'est la tenure track, c'est-à-dire la chaire junior qui est inspirée des universités anglo-saxonnes. Au lieu de recruter un jeune enseignant-chercheur sur un poste de titulaire, il s'agit de le recruter sur un CDD de longue durée, disons 5 à 10 ans, et à la fin de la période, s'il a fait ses preuves, il est recruté directement comme professeur des universités, sinon il dégage. Donc ça crée à la fois de la précarité, une pression énorme sur la personne recrutée, et une rupture du principe qui veut que pour accéder à un poste de fonctionnaire, normalement, on passe un concours. Alors en fait, depuis 2007, on pouvait déjà massivement recruter en CDD ou en CDI dans les universités, mais le gouvernement est en train de faire sauter deux verrous législatifs qui rendaient ces recrutements peu attractifs à la fois pour les universités et les candidats. Le premier verrou, c'est qu'avec le contrat de projet, on s'affranchit de la règle qui oblige à CDIser un CDD au bout de 6 ans de CDD. Et le deuxième, c'est qu'avec la tenure track, on casse la règle du concours. Alors pourquoi c'est important de recruter des fonctionnaires? Vous me direz, on pourrait faire assurer le même service public avec des contractuels aussi qualifiés, ça ne changerait pas la qualité du service public. En fait, dans le cas spécifique de l'enseignement et de la recherche, eh bien, il y a un principe internationalement reconnu de liberté académique qui est nécessaire pour faire correctement son travail. Et si on est en CDD et qu'on se sent constamment en période d'essai, on n'a pas cette liberté. Et puis, au-delà du cas de l'enseignement supérieur et de la recherche, eh bien, le statut de fonctionnaire est important puisque dans la conception française du statut de fonctionnaire, eh bien, c'est un statut qui permet de travailler pour le bien public indépendamment de toute pression économique et politique. Et un contractuel n'a pas cette protection. Un message d'espoir, c'est le discours de Emmanuel Macron hier soir qui nous a dit que ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché et nous devons reprendre le contrôle. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Chiche.
C'est une promesse spéculative.
Ouais, enfin, après, il a éteint le micro, puis il a dit bah, « En même temps, je fais ce que je veux. » Alors, bah, on termine l'émission. On remercie Philippot de nous avoir bien parlé de cette Europe qu'on ne vous comprend pas à travers les journaux. Alex et Gaël, et puis Ludo à la technique. Et un petit coucou à Jean-Marc qui était chez lui, et à Jean-Yves qui est aussi chez lui ce soir. Et on termine avec Boris Vian, mais ça, c'est plutôt Serge Reggiani qui nous chante « Le déserteur ».
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu.